Et Dieu vit que cela était bon. Pour mettre en résonance le texte biblique de la création du monde avec le discours scientifique sur l'univers. Une émission proposée par Ivar Drouel.
Le sixième jour est la dernière étape de la création. Et il porte deux paroles du Créateur. D'abord une parole pour créer ce qui sera l'environnement proche des hommes et des femmes. Et la parole ultime qui est la création des humains sur la terre. « Faisons l'homme à notre ressemblance, dit Dieu. Homme et femme, il les créa. » Il y a un second texte de la création, celui qui présente Adam et Ève, qui réfléchissent à leur liberté et à ce qu'ils en font, une réflexion plus sombre. Le premier texte, celui que l'on va écouter, est plus direct, totalement orienté sur la vie offerte en abondance, sur la joie de l'accueillir et de la transmettre. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. » Et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds ». Multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur terre, la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, sixième jour. Et Dieu vit que cela était très bon. Cette insistance est remarquable. L'espèce humaine est bien une espèce vivante parmi les vivants, mais pour chaque humain, la conscience, l'intelligence, la sensibilité qu'il habite lui confère une responsabilité toute particulière. Il est soumis aux mêmes lois biologiques que l'ensemble des vivants, mais fait à la ressemblance de Dieu, l'homme reçoit la charge de prolonger l'acte créateur et de choisir ce qui est bien, de choisir ce qui est beau. C'est peut-être ce que l'on peut ressentir devant le sixième et dernier tableau de Escher. Au premier plan, un homme et une femme qui contemplent l'harmonie paisible d'un paysage de champs et de collines. Les animaux se côtoient librement, lapins, chats, souris. On est dans le jardin d'Éden et au milieu, il y a un palmier grand et vigoureux, débordant de fruits, l'arbre de vie. Comme le raconte le second texte biblique de la création. La création se présente ici comme une promesse, une espérance à vivre dans la paix, jusque dans l'acte de se nourrir. Et je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Ce sentiment de force paisible, de justesse dans les sentiments, on le trouve dans la symphonie pastorale de Beethoven. Écoutons, interprétée par l'Orchestre national de France.
Thank you.
L'apparition de l'homme sur la Terre. Les paléontologues de découverte en hypothèse nous racontent une lente évolution. Cette bipédie, ce cerveau qui augmente de volume et les rites funéraires qui apparaissent, les outils, les parures de coquillages. L'aventure humaine se dévoile peu à peu sur des milliers et des milliers d'années. Les chimpanzés sont les singes génétiquement les plus proches de nous, mais nous ne descendons pas du singe, comme le dit Pascal Pic, paléoanthropologue au Collège de France, car les chimpanzés sont aussi le résultat d'une évolution. La séparation de ces deux lignées, celle qui aboutit à l'homme et celle qui aboutit aux chimpanzés, cette séparation remonte à environ 6 ou 7 millions d'années. Et sur notre lignée, les hommes apparaissent vers 2 millions d'années. Et les scientifiques le confirment, il n'y a maintenant qu'une seule espèce d'homme, l'homme moderne, Homo sapiens, apparu il y a 300 000 ans en Afrique, selon les fossiles découverts à Djebel Irhoud au Maroc. Écoutons Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France.
D'un point de vue purement, je dirais, biologique, effectivement, nous avons sur Terre aujourd'hui une seule espèce humaine. Alors cette espèce humaine, elle est assez variée dans son aspect, mais il faut quand même bien comprendre que la diversité qu'on observe sur la planète aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez cosmétique, en fait. Quand je dis cosmétique, c'est à dessein, parce que il a toujours été beaucoup question de couleur de peau tout au long de l'histoire. Je ne sais pas si on aura le temps de discuter de cette histoire de couleur de peau, mais c'est un caractère qui est littéralement superficiel. Et en réalité, biologiquement, les hommes représentent une espèce qui est assez homogène, malgré son expansion planétaire, et cette homogénéité, elle tient au fait que tous les hommes actuels ont une origine commune, assez récente du point de vue géologique. Et c'est cette émergence, dans le fond, relativement récente de notre espèce qui fait que tous les hommes qui sont sur Terre se ressemblent beaucoup, finalement. Alors, récente, vous allez voir, on va parler quand même de centaines de milliers d'années. Mais sans rentrer dans beaucoup de détails, je voudrais quand même vous dire que l'évolution des hominines, c'est-à-dire des espèces qui sont soit ancêtres, soit apparentées à l'espèce humaine actuelle, l'évolution des hominines, ça court sur 8 millions d'années. Hein. Donc là, on va regarder un petit peu la surface de cet océan de temps. Alors, si l'espèce humaine est très homogène, comme je l'ai dit, elle couvre toute la planète et elle a réussi à s'implanter dans des milieux qui sont des milieux assez hostiles et même de façon assez ancienne. Hein. On a des traces humaines sur les bords de l'océan Arctique il y a 30 000 ans. Et cette capacité des hommes à s'adapter à des milieux assez difficiles, elle est liée au fait que, dans le fond, notre niche écologique est assez particulière. En biologie, c'est ce qu'on appelle une construction de niche, c'est-à-dire c'est le processus qui fait qu'une espèce modifie son environnement pour l'adapter à elle-même plutôt qu'elle ne s'adapte à son environnement. Alors, il y a d'autres constructions de niche. Hein, les termites, elles vivent dans un endroit, dans un milieu qui est un milieu complètement fabriqué par les termites. Donc, les hommes fabriquent leur environnement. Et pour ça, ils extraient de l'énergie de l'environnement et ils le transforment. Alors, vous voyez que j'ai déjà utilisé le mot environnement, le mot énergie. Donc, vous voyez que, en fait, ces processus évolutifs, en fait, ont des implications profondes sur les questions que les hommes se posent aujourd'hui. Hein, sur leur avenir et les crises environnementales, les crises énergétiques que nous connaissons, les crises démographiques, ce ne sont pas des sortes d'accidents industriels qui ont démarré il y a quelques décennies. Hein. Ce sont des choses qui s'enracinent très très loin dans le temps.
L'évolution vers Homo sapiens est un processus complexe. marquée par des innovations biologiques et culturelles, la maîtrise du feu et la domestication des plantes et des animaux, avec une caractéristique essentielle, son expansion sur tous les continents. Avant Homo sapiens, l'évolution humaine est marquée par plusieurs étapes. Les Australopithèques, environ 4 à 2 millions d'années. Homo habilis, environ 2 à 1 million d'années. Première espèce du genre Homo, connue pour ses outils en pierre. Homo erectus, environ 1,9 million d'années jusqu'à 110 000 ans. Cette espèce a maîtrisé le feu et s'est répandue hors d'Afrique. Et puis l'homme de Néandertal, environ 400 000 à 40 000 ans. C'était des chasseurs et des artisans vivant en Europe et en Asie. Écoutons un texte de Pascal Pic, anthropologue. Les études sur les origines de la lignée humaine auront emprunté bien des détours. À la suite de l'hypothèse de Darwin sur notre parenté avec le chimpanzé et nos origines africaines en 1871, un siècle va encore s'écouler avant la validation de cette hypothèse, grâce à la génétique, sur la parenté étroite entre l'homme et les chimpanzés actuels. Ce n'est qu'à partir des années 1980 que se confirmera la piste africaine, notamment à travers la célèbre East Side Story d'Yves Coppens, qui situe nos origines à l'est des vallées du Grand Rift. Yves Coppens a eu un rôle important dans la compréhension des origines de l'homme et il est intéressant d'écouter une évocation de sa carrière lors de son décès en 2022 à 87 ans.
Son visage restera pour l'éternité associé à sa découverte majeure sur ce chantier du nord de l'Éthiopie. En novembre 1974, le monde découvre Lucie, la plus célèbre de nos ancêtres, une australopithèque âgée de plus de 3 millions d'années. Mais avec elle, les Français découvrent surtout la chaleur de la voix, le récit simple et captivant de l'un de ses découvreurs, ce paléontologue du nom d'Yves Coppens.
Lucie est donc une jeune femme du groupe des Australopithèques. Elle ne fait pas partie, sur le plan zoologique, des hommes.
Infatigable voyageur né dans le Morbihan, Yves Coppens a parcouru la planète entière pour exhumer par ses fouilles quelques-uns des mystères de nos origines. Une vie a remonté la piste de l'espèce humaine. Une vie a raconté, avec son talent inimitable, l'histoire de l'homme à hauteur d'homme, ou même d'enfant.
C'est-à-dire qu'on fait d'abord une datation, ensuite une autre datation.
Plus qu'un homme de science, la France perd ce soir un fervent défenseur de l'environnement, un grand humaniste.
Ces premiers hommes, on les connaît aussi par les fresques qu'ils ont laissées dans des grottes. Tout particulièrement, on ne peut pas rester insensible aux fresques de la grotte Chauvet, découverte en 1994. Des fresques plus anciennes et plus spectaculaires encore que celles des grottes de Lascaux. Les fresques sont datées à plus de 30 000 ans. Écoutons la bande-annonce d'un film d'Arte sur la grotte Chauvet.
« 36 000 ans avant notre ère, Homo sapiens est entré dans une immense grotte en Ardèche, dans le sud de la France. Il y a laissé d'innombrables gravures et dessins d'une beauté à couper le souffle. »
C'est un des chefs-d'œuvre de l'art de l'humanité, pas seulement de la préhistoire. Hein.
Depuis la découverte de la grotte Chauvet, il y a 30 ans, les archéologues ont répertorié sur les parois de la cavité des centaines d'œuvres d'une telle maîtrise artistique qu'elle est surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire.
Le génie est là. Quand on est face au panneau de Chauvet, on sait que c'est du génie. C'est une évidence.
Qui étaient les artistes qui nous ont légué ce trésor presque 20 000 ans avant celui de la grotte de Lascaux? Quel regard peut-on porter aujourd'hui sur ces œuvres d'un autre temps?
La Grotte Chauvet, ça a été une révolution pour notre pensée même de l'évolution de l'art.
Le travail des archéologues et les avancées technologiques récentes permettent aujourd'hui de percer certains mystères de la grotte et de se glisser dans la peau de nos ancêtres pour comprendre quel mode de vie et quel mode de pensée se dévoile à travers ces peintures.
Une description des peintures que l'on vient de découvrir avec peut-être quelques erreurs de date.
Ces deux rhinocéros face à face et ces quatre têtes de chevaux sont exceptionnelles. Exceptionnelles par leur datation, 18 à 20 000 ans avant notre ère, exceptionnelles par leur qualité, exceptionnelles parce que la représentation du rhinocéros dans les grottes préhistoriques connues est rarissime. Tout cela suffirait à faire de la grotte de Combes d'Arc sur la commune de Vallon, Pont d'Arc en Ardèche, une merveille scientifique et artistique comparable à Lascaux. Principal intérêt, la diversité du bestiaire. 300 animaux. Des ours, beaucoup d'ours, une cinquantaine. Des bisons. Des rhinocéros laineux, des félins, dont une représentation unique de panthères. Des cerfs mégacéros ou grands cerfs d'Irlande, aujourd'hui disparus. Des hyènes, rares, et même une représentation de hibou. Sans compter de multiples traces de mains, des signes et une étrange pierre surmontée d'un crâne d'ours. Cette découverte est un événement mondial, une chance inouïe pour les scientifiques, mais attention, pas pour les curieux, l'accès de la grotte est interdit.
Avec le sixième jour, on est au sommet de la création. Tout est créé. Rien ne manque, ni au ciel, ni sur la terre, et pourtant il va y avoir un septième jour. Contempler, oui, et réfléchir, surtout comment vivre cette vie reçue, et participer à ce mouvement, comment les communautés humaines vont se comporter et comment chacun, en son cœur, formule son espérance. Il y a un poème d'Amédée Pommier qui peut nous interpeller. Amédée Pommier est un poète né en 1803, mort en 1877, et dans les années 1827-1829, il obtint plusieurs prix de poésie aux Jeux floraux de Toulouse. Écoutons son poème. Dieu, dans sa sagesse profonde, a-t-il tout créé par sa voix? Ou si le hasard seul au monde impose aveuglement ses lois? Pour te délivrer de ce doute, homme, vers la céleste voûte, élève un moment tes regards, parcours ce magnifique livre, le nom de Dieu qui te fait vivre, y resplendit de toutes parts. Quittons ce sixième jour dans la paix, la sérénité, la confiance. Retrouvons la pastorale de Beethoven. Et bonne semaine à tous et à bientôt.
Thank you.